6h03, mardi 1er décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec encore une fois de la pluie, de la bruine intermittente. Hier, ça a été une journée, disons, très sombre avec de la pluie forte. Alors, ça continue un peu ce matin avec cette bruine-là. Le brouillard devrait se dissiper. On prévoit des vents jusqu'à 40 km/h et le maximum aujourd'hui, tenez-vous bien, 13 degrés. Ce soir et cette nuit, quelques averses. Ça devrait cesser durant la nuit. Ça demeure couvert, minimum de 3. Pour demain, mercredi, on prévoit du temps nuageux et possiblement de la pluie ou de la neige en après-midi avec des températures autour de 4 degrés. Il n'y a pas d'accumulation comme telle. Et jeudi, on prévoit des nuages. Il y aura quelques moments ensoleillés, maximum 5. Puis on termine la semaine avec du temps nuageux et 70 % de probabilité d'averse, 5 degrés comme maximum. Tout ça pour vous dire qu'on ne verra pas beaucoup de soleil durant la semaine. Et je vous dirais même durant la fin de semaine, alors que ça s'annonce plutôt nuageux, gris, sombre, avec des précipitations sous forme de neige ou encore de pluie. Il n'y a pas cependant, pour ce qui est de la neige, de forte accumulation. Bon, ça c'est le portrait météo. Maintenant, la nouvelle, bien sûr, c'est la présentation économique hier. La vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Freeland, qui a présenté son énoncé économique. Ce n'est pas un budget comme tel, mais c'est un document beaucoup plus important, beaucoup plus volumineux que ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas trop compliqué à résumer dans le sens suivant. Il y a beaucoup de détails qui vont venir plus tard, là. Mais essentiellement, on s'en va vers un déficit cette année, minimum de 381 milliards et possiblement que ça va toucher le 400 milliards. Et c'est encore 5 ans de méga déficit à venir, là. C'est plus de 1 000 milliards pour ce qui est de la dette comme telle du gouvernement fédéral. On comprend que c'est un contexte inhabituel. On comprend qu'il y a des programmes d'aide qui sont importants. Il y a des programmes pour stimuler les secteurs les plus touchés. L'aéronautique, le secteur du tourisme également. On dit que facilement, là, pour ce qui est de la lutte à la pandémie, il faut investir encore beaucoup d'argent. Là où ça devient questionnable, j'entendais des experts hier qui soulevaient ça, en disant qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui rassemblent davantage à des mesures électoralistes. Faut-il le rappeler que c'est un gouvernement minoritaire. Tu sais, quand tu promets une aide financière accrue pour les parents d'enfants de moins de 6 ans, selon le revenu, quand tu promets un soutien pour des programmes de réno-construction, puis en même temps de axé sur l'environnement, alors que l'économie, en termes, pour ce qui est de l'industrie de la construction, se passe assez bien, est-ce que c'est nécessaire d'aller dans cette direction? Et en même temps, quel est l'échéancier réel? Là, ce qu'on nous dit, ça va prendre minimum 5 ans avant de revenir dans les méga déficits que les libéraux faisaient. Et là, c'est une dette. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est important d'investir dans les infrastructures. La question que beaucoup se posent encore ce matin, puis je faisais le tour, là, au Canada anglais, Globe and Mail, National Post, est-ce que c'est clair comme vision et jusqu'à quel point on va hypothéquer les générations futures? En même temps, le gouvernement Trudeau dit qu'il veut investir dans les garderies, dit qu'il veut mettre des normes plus strictes pour ce qui est des résidences pour personnes âgées. Mais encore là, pour ce qui est du paiement de transfert en santé, on est loin, loin, loin des demandes des provinces. Et il y aura une conférence des premiers ministres qui va notamment aborder cette question-là. Alors, en résumé, c'est un déficit colossal qui n'est pas prêt de s'atténuer avec une série de mesures pour essayer de stimuler l'économie en période de crise. Et donc, il y a encore plus de dépenses pour la deuxième vague qui sont annoncées. Ça pourrait facilement le grimper. On a 25 milliards là, de nouvelles mesures qui ont été annoncées, puis le programme également de soutien pour les loyers. Bref, c'est plein d'argent. Il faut dire que les programmes fédéraux, avec le risque que ça représente en termes parfois de magouille puis de malversation, ce sont des programmes qui sont pas mal plus efficaces que ce qu'on a vu à Québec en termes là, de réponse rapide. Et c'est sûr que ça a un effet, là, la prestation canadienne d'urgence, on le sait, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont renoncé à aller travailler? Est-ce que ça a été plus compliqué? Peut-être, mais en même temps, il fallait intervenir pour éviter que des gens sombrent vraiment dans la misère. Alors voilà pour ce qui est de cette analyse. On va en reparler avec Pierre-Yves tantôt. et le premier ministre Justin Trudeau sera avec nous vers 7h20 ce matin. Maintenant, dans les autres nouvelles, peut-être juste un mot également. On s'est finalement décidé à taxer l'achat en ligne, qui était un objet de compétition déloyale à l'égard des entreprises canadiennes, des entreprises québécoises, et surtout, supposément, je dis bien supposément parce que j'attends de voir le détail de ça, on promet qu'on va taxer Facebook, Apple, Google, enfin les géants, probablement d'ici 2022. Mais globalement, le problème avec le gouvernement Trudeau, d'abord, ça leur a pris des années à vouloir le faire, là. Au début, on niait l'évidence. Mais prenez le cas du français. M. Trudeau parle, il y a un livre blanc à venir, mais à quel moment l'action sera-t-elle perceptible? Ce matin, là, on est à la veille de souligner encore une fois le drame horrible de Polytechnique. Il y a des intentions de réglementer les armes d'assaut et les armes de poing. À quel moment ça va se faire? C'est beaucoup de placotage, mais peu d'actions concrètes. Les bonnes intentions sont là, mais à quel moment on va le faire pour vrai, là? Et dans le cas de Polytechnique, toutes les survivantes et tous les gens qui prônent pour un contrôle des armes à feu ont l'impression de se faire rouler dans la farine par le gouvernement Trudeau, parce que c'est un discours d'armes bien pensantes, mais qui n'a pas l'air de vouloir faire face, disons, à la résistance. Alors ça, c'est tout le volet du gouvernement fédéral ce matin. Parlons COVID. Il y a beaucoup de questions concernant la COVID encore. C'est sûr que les chiffres demeurent élevés. Aux États-Unis, les experts en santé publique, Dr Fauci en premier, disent que les trois prochains mois, donc décembre, janvier, février, seront des mois difficiles et peut-être encore plus difficiles que lors de la première vague. Pourquoi? Parce que malgré tous les avis, les contacts se sont multipliés et on pense que l'effet Thanksgiving, additionné à l'effet Noël, additionné à l'effet premier de l'an, ben on va se retrouver avec une cascade de cas. Et on voit un peu le profil jusqu'à maintenant. C'est-à-dire beaucoup de gens asymptomatiques, donc qui sont contaminés, mais qui peuvent en contaminer d'autres. Et encore, et c'est ce qu'on voit au Québec, c'est-à-dire que ce sont encore les personnes âgées, les personnes qui ont des systèmes fragiles, qui sont les plus touchées, qui se ramassent à l'hôpital, aux soins intensifs et qui, malheureusement, finissent par en mourir. Et je sais que la question pour beaucoup de gens ce matin, c'est encore, puis elle va demeurer, je dirais, à l'agenda, est-ce qu'on va maintenir les rassemblements tels que définis par le gouvernement du Québec, les fameux 4 jours, là, puis les 2 rassemblements, est-ce que ça tient encore la route? J'entendais des experts dire, écoutez, je pense qu'on est rendu à prendre une décision. Le docteur Poirier, de la Santé publique de l'Estrie, hier matin, n'avait pas l'air bien convaincu qu'on pouvait maintenir ce type de rassemblement. On va en parler avec le docteur Weiss ce matin. Ça demeure un choix aussi personnel. Il n'y a rien qui vous oblige à faire ces rassemblements ou encore de faire 2 rassemblements. Je sais que pour la plupart des gens, les décisions sont prises, mais ça va être quoi? Espèce de politique là, tracée par Québec quand vous regardez ce qui se passe. Puis, quoi qu'il arrive, le système de santé est toujours fragile à la fin de l'année puis au début janvier. On le sait, là, chaque année, c'est pareil. Il y a du délestage qui se fait. Puis, ajoutez à cela cette année, l'épuisement du personnel. Et tout ce qu'on peut retrouver comme problème de grippe conventionnelle ou les urgences débordent, on le sait en janvier. Alors là, est-ce que pour nous aussi, ça va être une période plus difficile avant que le vaccin, je vais y venir tantôt, là, commence à être accessible? C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur le retour en janvier après le congé des fêtes et sur le nombre de cas. Et on le voit là, je le disais tantôt, ce sont les plus âgés, les plus vulnérables qui meurent. Mais on sait aussi qu'il y a une propagation parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui sont infectés. Puis ce matin, dans The Gazette, on donne l'exemple de l'hôpital du Lakeshore, où vous avez 3 unités frappées par des éclosions, ce qui fait beaucoup de cas. Et on donne l'exemple de spécialistes, des inhalothérapeutes qui ont été contaminés et qui se sont promenés, qui ont joué dans des appareils de ventilation, là, des fameux respirateurs. Alors, pourquoi ces employés-là sont contaminés? Bien, on le disait un peu hier matin. T'as beau avoir tous les protocoles, ça reste très pointu. Et d'être exposé comme ça, notamment quand c'est très virulent, bien, on le voit que la propagation se fait sur une base communautaire. Puis dans le cas des enfants, on le sait, pas trop de problèmes. Des jeunes adultes non plus, pas trop de problèmes. Mais plus des personnes âgées, plus des gens malades, hôpital, résidence, personnes âgées, ou bref, des gens qui sont vulnérables, sont exposés, bien là, on a cet impact. Puis le temps des fêtes, on s'entend là, que c'est propice à ça. Premier volet. Deuxième volet, ça concerne les activités permises. Alain parlait tantôt des patinoires extérieures. Là, ça va être une complication quand vous glissez un peu vers où on s'en va. Parce que officiellement, dans les zones rouges, puis il y a beaucoup de zones rouges au Québec, on le sait, là, Montréal fait partie de la liste, bien, il semble qu'il n'y aura pas possibilité de pratiquer du hockey sur les patinoires extérieures, dans les différents quartiers, ce qui fait que vous allez peut-être jouer en famille, peut-être que vous allez pouvoir patiner, tourner en rond, mais les grands matchs, Alain disait, tu sais, 15 contre 15 dans une patinoire dans le temps de Noël ou en février, il faut voir avec la météo, bien, ça ne pourra pas se produire. Puis on va peut-être permettre également le patin libre à l'extérieur, mais là, il va falloir gérer ça, puis comment on va faire pour appliquer. Ça, c'est un exemple d'activité à l'extérieur qu'on devra encadrer, puis là, ça va prendre des avis très clairs des villes qui sont touchées. Là. Comment on va gérer ça? Au début, on dit, ah, finalement, il n'y aura peut-être pas de problème. Alors, les activités extérieures, puis les gens ont besoin de bouger, là, les gyms demeurent fermés, bien, ils vont rester raquettes, ce qu'ils te font, probablement. On sait qu'il y a une folie là, pour ce genre d'équipement dans les boutiques, dans les magasins. Et puis, le volet vaccin aussi qui est important. Vous avez la compagnie Pfizer qui a demandé ce matin l'approbation en Europe. Il y a déjà des demandes qui se font aussi. Moderna, qui est allé chercher des autorisations, on tente d'avoir des autorisations. Et je regardais l'espèce de calendrier pour ce qui est des États-Unis. On prévoit que d'ici les prochains jours, on va débattre de ces vaccins. Donc, les experts de la Food and Drug vont avoir accès aux data là, pour être en mesure d'aller au-delà des communiqués de presse et de tirer une conclusion qui a du sens. Et peut-être amorcer les premières opérations de vaccination. Pour ce qui est du Canada, M. Trudeau a dit que les vaccins, là, on ne pourra pas vacciner une majorité de citoyens avant l'automne prochain. Donc, là aussi, ça va se faire de façon graduelle. Et Tourisme Montréal, juste pour boucler la boucle, s'attend à un retour des activités pour le printemps. On espère que finalement, on pourra revivre sur le plan touristique à Montréal, faire renaître le centre-ville, probablement peut-être au printemps, là, au mois de mai, puis avoir un été qui va être un peu plus intéressant. Puis un mot sur la ventilation dans les écoles. Ça, c'est l'affaire profondément scandaleuse, si vous voulez mon avis. Là. L'opération de vérification de la qualité de l'air dans les écoles est déclenchée. C'est absolument aberrant. Tout ce temps-là, pour se décider à faire, un, l'inventaire, il y a plus de la moitié des écoles qui n'ont pas de système de ventilation mécanique. Ça a pris des mois à être capable d'avoir un portrait. Là, on amorce la vérification de la qualité de l'air. Mais on fait quoi depuis le printemps? Puis oublions la COVID, là, de penser d'avoir une qualité de l'air pour des enfants qui sont enfermés dans un local. Et là, c'est rendu quoi? Il faut qu'on se tourne vers Jasmin Roy puis une fondation, puis qu'on demande des dons aux Québécois pour acheter des appareils. Je ne suis pas un expert en ventilation, là. Moi, je veux bien que le comité nous fasse ses recommandations. Mais sérieusement, là, il y a quelque chose de profondément scandaleux de voir qu'on a non seulement abandonné les écoles en termes de ventilation pendant des années, mais là, on le sait depuis le printemps qu'on a des problèmes à venir. Puis là, ça a traîné. Quand les directeurs d'école vous disent « on a beau envoyer ça au centre scolaire, ça n'a pas l'air d'être traité rapidement. » Puis là, après ça, ça traîne au niveau de l'éducation. DPJ. Je vais parler tantôt avec Patrick Gosselin, que j'ai connu quand on a fait les voleurs d'enfance, qui est le fils du bourreau de Beaumont, qui a été échappé par le système, qui a été, au terme d'une poursuite, compensé par le système et qui a eu une vie pas facile, parce qu'on a gardé le contact au fil des années. Il travaille maintenant à Havre-Saint-Pierre et il est intervenant en santé mentale, s'occupe des jeunes. J'ai pu parler brièvement avec lui hier. Puis je veux, avec son témoignage, vous montrer ce que c'est de passer par la DPJ, puis comment on peut peut-être arriver à avoir une vie organisée. Puis les constats faits par M. Lebon, par Régine Laurent, sont très clairs, là. C'est de recentrer ça sur les enfants. Puis on va arrêter de se conter des histoires. C'est pas vrai qu'on peut presser le citron avec des dossiers émotifs, humains, en pensant d'avoir des résultats, je dirais, efficaces. Et les constats sont parfaits. Là, il faut que le gouvernement arrête, encore une fois, de surfer, placoter. Là, ça prend des mesures concrètes. C'est quoi le plan de match? Un directeur national de la protection de la jeunesse, je veux bien, mais je suis d'accord avec mon ami Patrick Lagacé, il faut que ça soit quelqu'un d'indépendant du gouvernement. Ça ne peut pas là, être quelqu'un là, qui relève du ministre. C'est un vrai DPJ national qui surveille l'application des mesures, qui s'assure qu'on donne les services, que les enfants sont protégés puis qu'il y a un suivi. Il ne faut pas qu'il y ait une petite corde qu'ils tiennent accrochée au gouvernement, à mon humble avis. Donc, on va vous parler de ça ce matin. Également, on va revenir sur le cas des livres de François Legault. On a parlé hier matin. Alors là, l'Association des libraires, c'était prévisible dans la journée. Les deux genoux au sol, on se gratte au sang, puis là, on s'excuse de vivre. Puis on n'aurait pas dû faire ça, puis c'est l'initiative d'une DG. Je rappelle l'histoire. On demande au premier ministre, qui aime la littérature, qui lit beaucoup de romans, de partager ses choix. Puis dans ses choix, il y a le livre de Mathieu Bock-Côté, « L'Empire du politiquement correct ». Il n'y a personne qui t'oblige à l'acheter. Legault trouve ça intéressant, puis il le donne en référence, parmi d'autres, là, puis parmi des romans, Marie Laberge, j'ai vu d'autres livres passer. Puis là, il y a des gens qui gueulent parce que Legault ne reconnaît pas le racisme systémique et, au scandale, suggère le livre de Mathieu Bock-Côté. Y a-tu quelqu'un qui vous oblige à le lire? Personne. Et là, on ne sait pas exactement combien de militants se sont excités, puis ont mis de la pression, puis que là, on a décidé de retirer la liste. Là, c'est une autre controverse. Finalement, on dit, ben non, on enlève tout ça, puis on remet la liste. Sérieusement, venant de libraires, en fait, venant de l'association, beaucoup de libraires étaient assez frustrés de voir ça. Quand tu parles de livres, de liberté, tu sais, je veux savoir, moi, il lit quoi le premier ministre du Québec, là? Il me semble que c'est correct de savoir. Puis pas juste le premier ministre, les lectures que l'on fait, les émissions qu'on regarde, la musique qu'on écoute, ça peut en dire pas mal sur les individus. Et après tout, il n'a pas décidé que c'est une lecture obligatoire dans les écoles, il dit « Moi, je lis un paquet d'affaires, dont ça. » Et comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire avoir des lectures variées. Puis ça, c'est non seulement enrichissant, mais c'est aussi agréable. Dans les autres manchettes, rapidement, vous dire que le fédéral, c'est dans le devoir ce matin, va accélérer le processus d'expulsion de demandeurs d'asile, notamment des gens qui sont considérés comme des anges gardiens. Qui auraient pu profiter du programme fédéral, mais finalement qui vont être envoyés. Ça avait été mis sur la glace pendant la pandémie. Bien là, c'est réactivé à compter d'aujourd'hui. Il y a cette enquête, je vous le disais hier, enquête indépendante sur le casino. Et le Journal de Montréal qui en rajoute une couche ce matin en disant que le casino a caché des informations au fédéral. Ils ont payé 147 000 $ pour avoir omis de déclarer des opérations douteuses. D'avoir signalé des transactions là, qui auraient dû pourtant l'être. Il est 6h22. Allons-y avec quel secteur? La métropolitaine encore, oui.